Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge. Pendant une heure, nous allons découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, une école ancrée dans le réel. Elle vient d'intégrer pour la première fois le top 50 des meilleures écoles mondiales du palmarès du Financial Times. Des campus en France, mais aussi en Chine et en Afrique. Quelle est sa particularité, comment forme-t-elle ses étudiants? Le directeur général de Kedge Business School est l'invité de La France bouge. À la une, en effet, de l'enseignement sur mesure pour chaque élève, c'est le pari d'Evidence B. Elle développe des modules de géométrie, de français ou encore de latin. C'est de l'apprentissage spécialisé qui s'appuie sur les neurosciences et on découvre cette start-up d'ici quelques minutes. Ensuite, c'est le plus grand carnaval d'étudiants en France, c'est le carnaval de Caen, c'est la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit, le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et évidemment Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on reçoit Super Futur. C'est une start-up qui aide les jeunes dans leur orientation mais d'une façon assez originale.
Rendez-vous à 13h45 et puis en fin d'émission demain au travail. On passera un coup de fil au patron de Monnoyeur. Là-bas on fait du mentorat. C'est un salarié pour un jeune. Eh bien oui, c'est ça. La France bouge. Bienvenue. Vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. C'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici, à La France bouge, c'est la fin de l'année scolaire. Certains se demandent quelles études supérieures, comment choisir, quels sont les métiers de demain. On va en parler avec notre invité du jour et nos startups jusqu'à 14h. Bonjour Alexandre de Navaille.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le directeur général de Kedge Business School. C'est une école de management. Kedge existe depuis 9 ans, mais c'est la fusion de deux grandes écoles. Donc en vrai, elle a 150 ans cette école. 15 000 élèves, 4 campus en France, 2 en Afrique, 2 en Chine. Nous sommes au mois de juin, c'est le moment des choix pour les études supérieures. Alors j'ai juste envie de vous demander comment ça va pour vous ?
Oh bah ça va très bien. D'abord pour moi personnellement, je suis ravi. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'école.
Oui, ça fait à peine 2 ans.
À peine 2 ans, avec un parcours qui n'a absolument rien à voir avec un parcours académique.
Mais c'est ça,
je continue à découvrir.
Vous venez du monde de la location de voitures.
J'ai loué des voitures pendant 23 ans.
Ah, et vous avez vécu plus d'une dizaine d'années à Londres.
J'ai vécu 11 ans à Londres, ouais, 3 ans et 8 ans, alors, avec et sans enfants. C'est
alors,
magnifique.
Pourquoi Kedge?
Par hasard, j'ai envie de dire. Mais c'est souvent ce qui arrive quand on a 45 ans, un chasseur de tête vous appelle et vous dit « cette mission-là, tu ne peux pas l'oublier, tu ne peux pas la louper, tu ne peux pas ne pas la prendre, ne pas l'accepter ». Effectivement, la façon dont la mission m'a été décrite...
Une école 150 ans, quoi.
Ah, une école
c'est
de 150
pas...
ans,
c'est pas
rien.
Truc, ouais, c'est
alors,
pas
je
rien.
Travaillais pour une boîte qui avait 100 ans aussi, donc
ah,
c'était
oui,
pas
okay,
rien
bon,
non
allez.
Plus. Parce que ce loueur de voiture américain enfin, jaune avait 100 ans.
Enfin, loueur de voiture et
on passe de loueur de voiture
ça n'a rien à voir.
Préparer des jeunes, leur donner les compétences de demain. Et en fait, la mission est tellement belle. Et pendant 25 ans, on reçoit beaucoup dans sa vie, dans sa carrière, à travers ses études. Moi, j'étais très formé, j'ai fait plein de choses. Et je pense que c'était le moment pour moi de me dire... Qu'est-ce que tu peux redonner les 20 prochaines années? Voilà. Donc peut-être que je suis lié à Kedge pour 20 ans, on verra. En tout cas, c'est la promesse que je leur ai faite.
C'est la promesse que vous avez faite, mais Kedge, c'est à quoi de particulier? 4 campus en France, 2 en Afrique, 2 en Chine. Donc déjà, ça vous a interpellé, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Quelle formation proposez-vous parce que vous aimez à dire que c'est une école ancrée dans le réel. Le réel pour qui? Pour la réalité du travail? Le réel pour les étudiants? Le réel pour qui? Pourquoi?
Alors, le réel pour des jeunes et des entreprises qui les recruteront demain. La première originalité, c'est qu'on est dans le sud. Dans le sud, il fait beau, il y a l'accent, il y a les cigales. On est à Marseille, on est à Bordeaux et Toulon. Voilà, ça, c'est les campus du sud. On a un campus à Paris aussi. Et puis, vraiment, dans le sud, puisqu'on est ancré en Afrique, vous le disiez tout à l'heure, et on est en Chine aussi. Une particularité de Kedge, je crois, c'est à travers notre pédagogie et la façon dont on souhaite que nos étudiants apprennent à faire et réussissent en faisant. C'est vraiment la promesse que l'on fait, et c'est un peu notre moto, finalement.
En faisant quoi ?
En leur donnant l'opportunité, non seulement d'apprendre en salle de cours, évidemment, mais de faire l'expérience d'eux-mêmes, à travers beaucoup de cas, beaucoup de travaux collaboratifs, beaucoup de travaux de groupe, et surtout d'être en face-à-face permanent avec l'entreprise et le monde de l'entreprise. On a évidemment tout un programme de stage, on a pas loin de 25% de nos étudiants qui sont en apprentissage, on les confronte à des cas réels d'entreprises qui viennent pitcher chez nous et qui leur demandent quasiment des cas de consulting. Elles ont un mois pour préparer et puis ils doivent...
Donc on est très dans la réalité du monde du travail, hein, Nathalie.
Oui, mais enfin, pardon, chambre de commerce, des écoles, des business schools, on a quelques-unes, dont la vôtre. Finalement, travailler sur des cas, faire des stages, etc., c'est assez classique dans une business school aujourd'hui. Et puis c'est la pédagogie Freinet qu'on a... tu dis, ça date un petit peu. Donc en quoi c'est vraiment original finalement? Parce que le M fait pareil.
Alors, je crois que l'originalité de Cage, c'est que on sait qu'on va former des jeunes qui ne seront pas forcément demain les patrons du CAC 40 et qui seront plutôt ceux qui seront extrêmement opérationnels et très très vite d'ailleurs dans les entreprises qui les recruteront. Moi, les DRH et les DG que je vois et que je côtoie me disent ce qu'il y a de bien avec les Cagers, c'est qu'il n'y a rien à leur apprendre de plus. Ils s'adaptent extrêmement vite et ils sont très vite opérationnels, très vite impactants et créant du résultat. Et c'est ça qu'on recherche en fait.
Oui, plus que de chercher des stratèges. Que dans la construction.
Voilà, exactement. On est vraiment dans l'opérationnalité.
Dans directement.
On forme des très bons patrons de TI, des très bons patrons de grosses PME. On forme beaucoup d'entrepreneurs, je vous en parlerai tout à l'heure. Et on forme des très bons patrons de business unit et de futures filiales de grands groupes. Mm. Voilà, c'est vraiment un peu notre ADN et ce qui nous caractérise.
Donc ça, c'est ce qui vous caractérise, ça c'est du côté des étudiants. Mais les professeurs, vous les trouvez où? Vous les formez comment? C'est qui vos profs?
Alors nos profs, ce sont tous, pour 95% d'entre eux déjà, des doctorants. C'est-à-dire que ce sont des profs qui ont passé une thèse, qui ont un doctorat français ou un PhD américain, par exemple. On a 200 professeurs permanents à l'école. Beaucoup font beaucoup de recherches aussi, parce que la recherche dans une école de management, et c'est très surprenant quand on ne connaît pas le milieu des écoles de management, de se rendre compte de ce que c'est que la recherche. Et les profs font de la recherche pour pouvoir s'assurer que ce que l'on enseigne est toujours à la pointe, voire anticipe des tendances et anticipe ce que peut être la demande et ce que peuvent être les compétences requises de
c'est
demain.
PhD, donc des doctorants.
Des doctorants. On a toujours ce débat chercheur contre professionnel.
En fait, il y a besoin des deux. Après, une école comme la nôtre qui est accréditée, qui a tous les tampons du ministère, on a besoin d'avoir un nombre défini de professeurs qui encadrent nos étudiants. Et en plus de ça, effectivement, on a beaucoup de professionnels qui interviennent parce que ce sont ceux qui confrontent les étudiants à la réalité économique et de l'entreprise.
Alexandre de Navaille, que reste-t-il de la période de Covid? Qu'est-ce que la crise a changé dans le rapport enseignant-étudiant dans le distanciel? Est-ce que vous poursuivez des cours en distanciel ou c'est comme nous avec les masques, il n'y a plus rien, c'est comme si ça n'avait jamais existé?
Alors, des masques, il n'y en a plus, je vous rassure aussi, chez les étudiants. Néanmoins, il reste quelque chose d'assez fondamental de cette crise. D'abord, chez les étudiants et ensuite pour l'école elle-même. Chez les étudiants, je pense qu'on a des étudiants qui, après 2 ans de crise, sont extrêmement conscients du monde dans lequel ils vivent. Alors, c'est un peu...
il y a moins d'inconscience en ce moment.
Ouais, et c'est des termes qui sont un peu galvaudés, que tout le monde utilise, mais il y a cette idée de chercher du sens à leur vie, ou en tout cas à leur début de vie, ça c'est sûr. Des étudiants qui sont beaucoup plus exigeants, je crois. Moi, je n'étais pas là il y a 2 ans avant, où je suis arrivé en pleine crise. Donc,
c'est audacieux d'arriver dans une boîte qui a 150 ans.
Je suis arrivé sur des campus qui sont très, très grands. Un campus de Bordeaux, 40 000 m². J'étais quasiment seul quand j'étais arrivé sur ce campus. C'était très surprenant. Mais c'est des étudiants qui ont pris conscience de quelque chose et que le monde qui les entoure peut-être est plus fragile, plus complexe et peut-être plus risqué qui ne pouvaient l'imaginer il y a encore 10 ans, qui sont extrêmement exigeants avec les profs.
Exigeants, mais alors, par exemple, très pratique, par exemple, au distanciel. Est-ce que vous poursuivez des cours en distanciel ou en fait, des cours en distanciel,
on en faisait même avant la crise. Parce que c'est une façon, finalement, de délivrer notre pédagogie qui existait déjà avant la crise. Maintenant, la crise vient d'accélérer. Elle nous a obligés à beaucoup investir. Donc, on a investi plusieurs millions d'euros pour équiper toutes nos salles, surtout nos campus, de technologies qui permettent d'avoir des cours en hybride, c'est-à-dire des élèves en salle de cours et des élèves qui sont à distance. Et puis ensuite, on se pose surtout cette question de qu'est-ce que le distanciel peut apporter à la pédagogie. En fait, le distanciel peut permettre d'élargir le scope et le périmètre des cours, d'avoir peut-être de la pédagogie plus descendante et de privilégier le présentiel pour ces moments qui sont l'expérience,
de groupe collectif entre étudiants,
La relation entre l'étudiant et le professeur, c'est vraiment absolument important.
On va continuer à en parler avec vous, Alexandre de Navaille. Vous êtes le directeur général de Cage Business School, plus de 15 000 étudiants, des campus en France, mais aussi en Chine et en Afrique. Et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises, nos initiatives. Il y en a sans arrêt, hein, Nathalie
Tout le temps,
Carré.
Hein. Tous les jours.
Tous les jours, il y en a. C'est entre 13h et 14h sur Europe 1. Et aujourd'hui, on parle des études supérieures, hein, parce que c'est le moment de, voilà, de choisir, hein, pour nos étudiants, pour nos grands-enfants, j'ai envie de dire. Et nous sommes ravis d'être avec vous, Alexandre de Navaille. Vous êtes le directeur général de Kedge Business School. Alors, on a tous rêvé d'avoir un enseignement un peu personnalisé, un enseignement sur mesure qui s'adapte en fonction des besoins de chaque élève. Et vous l'avez fait, Thierry de Vulpilière, bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le cofondateur d'Evidence B. On dit comme ça, je me suis dit ce qu'on dit en anglais, Evidence B.
Alors Evidence B, c'est pas parce que Evidence A était déjà pris.
Ah,
c'est une référence à un courant anglo-saxon qui est l'evidence-based education, l'éducation fondée sur les preuves. On est adossé, nous, à de la recherche fondamentale en neurosciences, en IA, intelligence artificielle. Donc, c'est effectivement ça la référence de Evidence.
Vous nous avez déjà un peu tout dit. Hein. C'est une start-up qui a 5 ans que vous avez fondée avec votre épouse.
Absolument.
Votre épouse qui est normalienne et enseignante. Et votre mission, donc, c'est de vous adapter au niveau de chaque élève, parce que c'est en référence donc, à ce fameux courant anglo-saxon fondé sur les preuves. C'est quoi ce courant qui est fondé sur les preuves?
En fait, l'éducation, c'est un super artisanat. Ça fait 3000 ans qu'on enseigne, mais on ne sait pas tout. On a des bonnes pratiques. Mais une bonne partie de ce qui se passe dans l'enseignement, ça se passe ici,
dans
ce cerveau. et on ne sait pas trop comment ça marche. Ça fait 30 ans qu'on commence à découvrir, à l'aide des sciences cognitives, comment le cerveau fonctionne. C'est les neurosciences, c'est la linguistique, c'est la psychologie cognitive. Et du coup, il y a des trous, des découvertes scientifiques qui commencent à mieux comprendre comment les enfants apprennent les fractions, les proportions, comment ils ont le sens du verbe, comment ils ont le sens du nombre. Et donc, c'est ces nouvelles découvertes récentes qu'on vient mettre à disposition du corps enseignant et des systèmes éducatifs.
Donc, c'est quoi, c'est, par exemple, donnez-nous un exemple concret pour que voilà,
les fractions
comprennent.
Comment comprendre
voilà, les fractions, c'est...
Un exemple simple sur les fractions. À la naissance, les bébés humains, le propre de l'humain, il y a un certain nombre d'éléments dans le cerveau humain que n'ont pas les animaux ou les plantes. Si vous mettez un bébé dans un IRM, dans une imagerie cérébrale, vous mettez plein d'objets d'un côté, vous les cachez, vous enlevez le cache et il n'y a pas d'objet là où il devait y en avoir, le cerveau du bébé est surpris. On voit qu'il est surpris. À côté de ça, il y a des grandes enquêtes internationales sur l'éducation, notamment les enquêtes PISA qu'on connaît. Mm-hmm. Les enfants ont 15 ans, ils sont en 3e, et on leur
la dernière enquête en PISA...
Chez nous,
c'est 80 pays, donc soyons pas, ne nous blâmons pas spécialement sur la France. Donc on demande à la dernière enquête de comparer 2/5 et 1/2. Hein. Et 75% des élèves dans le monde pensent que 2/5 est plus grand que 1/2. Mmh. Donc c'est pas qu'en France, c'est aussi ce qui est faux.
Oui, c'est faux. Oui.
Et c'est vrai aussi à Singapour et en Finlande.
Vous intervenez à quel moment?
Alors, c'est des recherches. Nous, c'est avec l'Institut Max Planck qui a eu des recherches pendant 7 ans sur ce sens des proportions qu'ont les bébés humains et cette difficulté qu'ont les systèmes éducatifs à transmettre des éléments aussi basiques que la proportion. Parce que à Kedge, sans arrêt, on a besoin de savoir manier des proportions. Donc si on se trompe sur ces éléments-là, ça va gêner tout le système éducatif. Là, ce que disent par exemple les sciences cognitives, en fait, si vous avez 2/5
est supérieur à 1, c'est pour ça qu'on dit que 2 est plus grand.
Voilà. Mais si vous avez 2/5 de gâteau au chocolat ou 1/2 gâteau au chocolat, il n'y a pas un enfant qui se trompe. Donc le passage du non symbolique, le gâteau, au symbolique, les nombres, est une difficulté.
Donc c'est ça la preuve.
Et donc ça, c'est la difficulté. Et le travail, ce qu'ont montré les neurosciences, c'est qu'il faut travailler simultanément beaucoup de représentations différentes de la proportion. Ça peut être le pourcentage, ça peut être la fraction, ça peut être la probabilité. Donc il y a toute une série d'éléments qui permettent de remédier, de mieux faire cet apprentissage que découvrent les sciences cognitives.
Donc tout
ça,
gâteau.
C'est la première recherche sur laquelle on travaille. La deuxième recherche sur laquelle on s'adosse, c'est l'intelligence artificielle. Hein, l'intelligence artificielle, c'est grosso modo les traces numériques que laissent les élèves de cette multiplicité de traces. C'est de la data. Hein, et on vient de cette data repérer des signaux faibles que l'enseignant face à 30 élèves, nous on est en Égypte, il y a 80 élèves, où il y en a 40 à Singapour, c'est difficile pour chaque enseignant de comprendre pourquoi
alors,
chaque élève a une difficulté.
Vous proposez des modules d'apprentissage quasiment sur mesure, ça signifie que vous travaillez sur les zones où il y a des difficultés à l'apprentissage chez chacun des élèves.
Alors on fait
c'est
des
ça,
modules
oui,
d'exercice, adaptive math, etc. Ça s'adresse à tous les élèves. À partir du moment où ça s'adresse à tous les élèves, aujourd'hui on a, les systèmes éducatifs se sont massifiés un peu partout dans le monde,
okay,
ça fait un siècle.
Alors, mais vous vous.
Mais alors... nous, on personnalise. C'est-à-dire qu'on s'adresse à tous, mais on s'adresse à chacun. L'enseignement pour tous n'est pas encore l'enseignement pour chacun. Ça veut dire que quand un enseignant de maths, on a Adaptive Math qui a été acheté par le ministère de l'Éducation, mmh. qui est dans toutes les écoles en France, bah chaque élève, à la fois ceux qui décrochent, à la fois ceux qui vont vite, vont avoir un exercice, une suite d'exercices qui s'ajustent à leur rapidité d'apprentissage, leurs difficultés propres.
Et quand donc, vous dites qu'ils s'ajustent, c'est parce que quand on se connecte pour la première fois à Évidence B, il y a une espèce de première connexion, une forme de test pour pouvoir situer l'élève, c'est ça ?
On a toujours un test de profilage au départ qui va vous donner le point d'entrée, mais ensuite les algorithmes qu'on utilise... Donc on a développé avec l'INRIA, d'apprentissage adaptatif, eh bien, au fur et à mesure qu'on avance, ils vont s'ajuster au parcours antérieur de l'élève. Voilà, à
donc
chaque
on
fois
a bien compris, c'est pour les manuels scolaires, ce sont pour les enseignants, donc ce n'est pas pour les particuliers.
Alors, on s'adresse a priori à soit des États, soit des collectivités locales, ceux qui ont en charge le système éducatif, soit à ceux qui s'adressent massivement à ce système éducatif, beaucoup les éditeurs scolaires. On a fait des modules avec Bordas, avec Nathan, avec Attier, mais avec Pearson, le premier éditeur scolaire mondial en Italie, ou avec Marshall Cavendish, qui est leader de la méthode de Singapour à Singapour. Donc, c'est, voilà.
Qu'en pense notre grand témoin du jour, le patron de Catch Business School, Alexandre de Navaille ?
Ah bah, je suis d'abord extrêmement surpris par tout ce qu'on est capable de faire à travers ces études et ces analyses. Nous, ce en quoi on croit aussi, c'est que finalement, l'accompagnement personnalisé des étudiants, même après le collège et le lycée, est absolument fondamental. Même si les étudiants sont des adultes, ils continuent à apprendre. Même moi, hein, 25 ans après avoir commencé à travailler, je continue à apprendre tous les jours. Et le fait d'être accompagné est une priorité à Catch. Et donc, on a aujourd'hui des ressources, on a énormément de coachs qui interviennent dans le parcours, qui ne sont pas forcément des professeurs d'ailleurs.
Pour faire du sur-mesure aussi.
Pour faire du sur-mesure et pour que l'étudiant comprenne ce qu'il apprend, comprenne les compétences qu'il a en arrivant à Catch et les compétences qu'il va acquérir et en sortant de Catch, celles qu'il a acquises. Et on a un programme qui s'appelle Be You, être soi, qui est cet accompagnement personnalisé de l'étudiant et qui permet en sortant de son parcours à Catch à l'étudiant de comprendre ce qu'il a appris, quelles compétences il a acquises, quelles compétences il peut faire valoir, ce qu'il va être capable de démontrer quand il va être face à un premier employeur et face à des recruteurs.
Thierry de Vulpilière, Évidence B, c'est valable partout dans le monde, hein. C'est pas que français, hein. Ce sont des modules que vous vendez un peu
Londres,
partout.
On a été incubé à l'UCL, University College of London. Maintenant, on est chez Willa, l'incubateur des femmes créatrices d'entreprise, puisque c'est Catherine qui a cofondé cette entreprise à Paris.
Catherine, donc votre
mon épouse,
votre épouse.
Et on est quatre cofondateurs. Et effectivement, ça s'adresse à tous les pays. On a commencé effectivement en Europe, à Singapour et en France, et on s'étend. On a un marché en Égypte, on en a un à Haïti plutôt pour des profils décrocheurs. Donc oui, c'est très international, et c'est de la recherche française en partie qui s'exporte de façon assez efficace face aux géants américains et chinois sur ce domaine.
Évidence B, merci à vous Thierry de Vulpilière. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge.
Europe 1. La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui on parle de nos études supérieures hein, puisque c'est le moment de choisir. Donc nous sommes ravis d'être avec vous Alexandre de Navaille, hein. Vous êtes le directeur général de Catch Business School. Hein. Catch Business School, si vous ne connaissez pas, eh ben, vous devriez connaître. Hein, parce
oui,
que
sont, pas.
Hein, c'est plus de 15 000 étudiants, des campus en France.
Partout.
En Chine, en Afrique. Justement, quelles sont les passerelles entre la Chine et la France ou l'Afrique ? C'est surprenant. Moi, je m'attendais à des campus aux États-Unis ou à Londres, oui. Comme la plupart des écoles. Non, vous, c'est quand même assez atypique, je trouve.
Alors, en fait, non seulement on a ces quatre campus-là, mais on a aussi 280 universités partenaires dans le monde. 75% d'entre elles sont accréditées, d'ailleurs, qui nous permettent de faire des échanges d'étudiants entre ces universités et Catch. Donc, tous nos étudiants sur l'ensemble de nos programmes ont l'opportunité de partir à l'étranger. Une fois, deux fois, sur des périodes de 6 mois. Ces campus chinois et africains, en fait, ils ont surtout vocation à faire valoir nos expertises et notre savoir-faire dans l'enseignement supérieur localement. L'idée, c'est aussi de former des jeunes localement, en Afrique, par exemple au Sénégal ou à Abidjan, pour qu'à travers des parcours et des diplômes français, hein, le bachelor Catch, par exemple, est à Dakar, ces jeunes, ensuite, acquièrent les compétences un peu à la française, si je peux dire, mais surtout restent au Sénégal et restent à Abidjan. Néanmoins, il y a des passerelles. Et donc, certains d'entre eux, après leur bachelor, rejoignent les programmes de master à Catch, à Marseille ou à Bordeaux, par exemple.
Et en Chine, ça se passe comment en ce moment?
Alors,
parce que c'est particulier, la Chine.
C'est très particulier. Aujourd'hui, les frontières sont fermées, donc les étudiants ne peuvent pas partir. On a deux types de programmes en Chine. D'abord, on a notre Global MBA, qui est un MBA en Executive Education.
Donc ça, c'est pour les adultes.
Qui est à Shanghai, c'est pour les adultes. Et c'est le même programme que celui qu'on délivre à Paris, par exemple, pour des étudiants français, bah là, c'est des étudiants chinois à Shanghai. Et puis, on a ce qu'on appelle deux instituts franco-chinois. Et là, on est partenaire avec une université chinoise, l'université de Renmin, qui est l'université du peuple. Et l'autre partenariat, c'est avec CAFA, c'est Central Academy of Fine Arts, donc c'est les beaux-arts chinois. Et les étudiants chinois ont 2 ans en Chine, avec des cours qui sont et délivrés par l'université et par des professeurs de catch. 3e année en France. Ils viennent en France, ils obtiennent le bachelor catch. 4e année, ils repartent en Chine, ils ont le diplôme chinois. Et 5e année, ils ont l'opportunité de revenir en France, chez nous, faire un master chez catch. Oui.
Mais là, en ce moment, ce n'est pas possible.
Alors, en ce moment, ça se fait à distance, mais ça se fait. C'est-à-dire que les étudiants chinois poursuivent les cours à distance, mais ce sont les cours du programme de l'IFC.
Alors, on le sait, hein, et nous, on le voit chaque jour dans La France Bouge, les élèves, les futurs candidats pour trouver un emploi ont besoin de plus en plus de sens. Hein. Ils ont besoin de ce sens. Vous, que faites-vous dans vos programmes, dans vos formations pour répondre à cette demande? Parce qu'on le voit, quand ils veulent travailler, quand ils postulent, c'est le programme, la RSE, qu'en est-il? Voilà, il y a y a des besoins qui n'étaient pas existants, oui, il y a encore une dizaine d'années.
Oui. Alors, c'est étonnant parce que quand on regarde, il y a des sondages qui sortent, que veulent faire les étudiants à l'issue de leurs études? Et en fait, 30% d'entre eux disent, je veux travailler pour une boîte qui effectivement me donnera du sens à ma vie pour mes premières années. Ils sont même prêts à donner un peu de leur salaire pour travailler dans une boîte qui exprime ses valeurs.
Ils regardent moins le salaire, ils regardent d'abord le sens.
Après quelques années, peut-être que les choses évoluent et changent, mais il y a une réalité. 30% veulent faire de l'entrepreneuriat, veulent monter leur propre structure.
Vous êtes en train de dire qu'un tiers des étudiants de Cage...
Deux tiers des étudiants, de façon générale. Un tiers veut travailler dans une boîte qui leur procurera du sens, un tiers veut...
Et l'entrepreneuriat, c'est la meilleure façon de procurer du sens.
C'est son propre sens.
On se réveille pour soi le matin.
C'est ça, exactement.
Après, que fait une école comme Cage pour pouvoir le satisfaire? D'abord, elle engage ses étudiants à travers le monde associatif à participer justement à cette idée de l'école est là avec son rôle sociétal, son rôle social.
On demande à nos étudiants.
Par exemple, il y en a une qui s'appelle Diambars, que j'aime beaucoup, qui est à Marseille et qui promeut l'inclusion des jeunes des quartiers nord de Marseille à travers le sport. Et ça, c'est pris en main par les jeunes étudiants de Catch, c'est eux qui le gèrent. Phoenix Égalité des Chances, qui est une autre association de Marseille, qui va dans les quartiers et dans les lycées des quartiers pour apporter à travers les cordées de la réussite, le programme des cordées de la réussite, du soutien scolaire à ses étudiants. Et en fait, ce que l'on demande aussi à nos étudiants, et ça commencera à la rentrée de septembre 2022 par exemple, on exige de nos étudiants, c'est un requis diplômant, qu'ils fassent ce qu'on appelle un projet action, c'est-à-dire qu'ils vont mener un projet début jusqu'à la fin, ils dessinent un business plan, ils ont des services et des produits à vendre. Et on veut que nos étudiants du programme Grande École, qui ont 2 projets d'action à faire, il y en a un des 2 obligatoirement qui a un rôle sociétal.
Ça donne envie d'aller de retourner sur les bancs d'école.
On n'avait pas ça.
Nous, on n'avait pas ça.
C'était très différent
il y a 30 ans.
Non, mais ça prouve que vous vous adaptez aux besoins des étudiants et ça, c'est formidable. Alors, chaque jour dans La France Bouge, Alexandre de Navailles, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un événement qui traverse les années et qui sont toujours là en France. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un carnaval. Un carnaval pas comme les autres. Il a lieu chaque année. Ça se passe à Caen. Il réunit près de 35 000 personnes, c'est le carnaval étudiant de Caen et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Bonjour Quentin Paillet.
Bonjour Elisabeth.
Un carnaval d'étudiants qui date de la fin du 19e siècle, mais grâce aux étudiants de l'université de Caen, depuis 1996, il a connu une seconde naissance.
Oui, allez Elisabeth, c'est la fin de l'année universitaire, on se déguise, je vous emmène faire la fête au carnaval étudiant de Caen. Tout commence donc en 1896, à l'époque ça s'appelait Cavalcade de Bienfaisance, ça réunissait les étudiants et les habitants de Caen, ça durait tout un week-end avec des personnes costumées, des chars, de la musique militaire. Il a lieu tous les ans jusqu'en 1963 et puis plus rien, mais la tradition reste dans les mémoires. Le carnaval tel que nous le connaissons aujourd'hui commence, ou plutôt recommence, en 1996 et il a lieu tous les ans fin mars, début avril, comme nous l'explique Nathan Courbet, président du carnaval étudiant de Caen.
L'idée du carnaval, c'est en fait d'avoir donc les personnes qui se réunissent à l'université. C'est comme symbole, comme lieu de départ, en fait, où vraiment tout le monde se réunit avant, à peu près 1 heure avant de défiler. Ensuite, il y a des chars qui sont construits par les B2 et associations étudiantes qui arrivent, qui défilent en fait dans toute la ville, devant la mairie, etc., pour arriver à la fin au parc des expositions de Caen. Et une fois qu'ils arrivent au parc des expositions, il y a un concert avec plusieurs artistes, des food trucks pour se restaurer. C'est un peu en fait le dernier moment de l'année où tout le monde est là en même temps. On relâche un peu la pression avant de la dernière ligne droite.
Bon, alors on fait comment pour participer à ce carnaval? Faut être étudiant forcément?
Pas forcément, c'est très simple.
C'est une grande fiesta.
Exactement, il n'y a pas d'invitation officielle, on ne doit pas s'inscrire, c'est gratuit. Il suffit de venir le bonjour évidemment. Et surtout, ça n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé de venir déguisé.
Enfin, un des déguisements les plus vus, c'est les radars automatiques. Les gens se déguisent beaucoup en radar, plus ou moins bien fait pour certains d'ailleurs. Même si c'est un simple habit, un simple combinaison ou quelques traits de maquillage, tout le monde vient déguisé au carnaval. Un de ceux qui m'ont marqué le plus, c'était un groupe de personnes. Ça devait être 10 potes ensemble qui s'étaient en fait, avec du carton et un peu de peinture, fait des déguisements de spartiates. C'était très bien fait et c'est vraiment ce genre de déguisement qu'on retrouve un peu beaucoup. On a des déguisements de voiture aussi, des gens qui ont créé une sorte de voiture en bois, qui sont à quatre dedans et qui marchent. On a vraiment plein de choses. Les gens sont très très inventifs.
Le carnaval étudiant, c'est donc la fête, mais ça ne suffit pas pour continuer à attirer des participants. Les organisateurs font des surprises aux carnavaliers. Et en avril dernier, la surprise, c'était le canet le plus connu après Guillaume le Conquérant, le rappeur Orelsan.
Ça fait des années qu'on essaye de mettre en place quelque chose de symbolique pour le carnaval, une tête d'affiche qui représente vraiment, vraiment Caen et qui représente aussi simplement les étudiants, hein, qu'on a pensé Orelsan, parce qu'il n'y a pas mieux pour représenter le carnaval de Caen que Orelsan. On l'a fait monter sur un char, il a fait son concert sur le char, vraiment plus proche de la foule, et on était vraiment très contents de voir qu'il a répondu présent. Lui était très heureux de participer, et il a été vraiment un super carnaval qu'il avait adoré, passer ce moment, etc. On est vraiment très contents.
Et cette année, donc, record, plus de 35 000 personnes ont participé, ont défilé le long des 2 km du carnaval, le plus grand carnaval étudiant d'Europe.
Merci Quentin Paillet pour ce grand, plus grand carnaval d'étudiants d'Europe. Moi,
je ne connaissais pas du tout.
Hein, moi aussi, ce carnaval de Caen. Nous sommes toujours avec Alexandre Denavaille, le directeur général de Catch Business School. On a parlé du carnaval étudiant de Caen. Moi, ça m'a fait penser au fameux week-end d'intégration. Ça se passe comment? Il y a eu énormément de polémiques autour des week-ends avec les bizutages. Est-ce que ça existe toujours?
Alors, les week-ends d'intégration, ils existent toujours. Mmh. Les bizutages, ils sont bannis. Il faut quand même rappeler...
Pour de vrai ou c'est officiel?
Pour de vrai, je vais quand même passer un message à mes étudiants, parce que s'ils m'écoutent, enfin je l'espère en tout cas, ils l'auront comme ça, le bizutage est banni par la loi, c'est-à-dire que c'est pénalement répressible. Donc les week-ends d'intégration, ils existent parce que c'est un moment fort pour l'étudiant, pour le jeune qui arrive dans une école, pour s'intégrer dans l'école, et surtout pour créer du lien. Il a lieu généralement après la semaine d'intégration, qui est extrêmement intense, où on annonce tout ce qui va se passer au cours de l'année. Il y a beaucoup de conférences qui ont lieu pendant cette semaine d'intégration. Et c'est un peu un moment de soulagement, où le premier moment où tous les étudiants se retrouvent, effectivement, pour fêter ensemble leur intégration, et puis commencer 2 ans, 3 ans, 4 ans ensemble, en fonction du programme qu'ils intègrent. C'est un week-end qui est géré, du début jusqu'à la fin, par nos BDE. Et les BDE sont des associations, bureaux des élèves, des associations indépendantes, qui sont des entités juridiques indépendantes. Alors évidemment, elles sont soutenues, appuyées par l'école, et on les forme. On forme les bureaux.
Quand vous les formez?
Les présidents. On les forme avant l'été.
Avant l'été.
Parce que les bureaux, c'est-à-dire le président, vice-président, trésorier, etc., ont été désignés par leur pair, et on les forme à gérer de tels événements. On les forme, par exemple, aussi sur les violences sexuelles et sexistes. On les forme à savoir gérer des conflits,
on
à gérer
tout
des cas.
Ça.
Parce qu'en fait, la formation et la prévention est la base de tout.
Oui,
et sans formation, sans prévention, ces étudiants ne se rendent pas forcément compte de leur rôle et d'ailleurs de leur responsabilité, et je le rappelle, souvent pénale. C'est-à-dire qu'un président d'une association, il a une responsabilité pénale. Alors après,
donc pas de débordement chez Cage à signaler.
Pas que je ne sache, aucun qui ne m'a été remonté.
En tout cas, vous êtes très vigilant à cela.
On est très vigilant. On appuie aussi avec de la ressource, on les aide. C'est-à-dire qu'on a 15 personnes sur chacun des deux ways, hein, puisqu'on a un à Bordeaux et un à Marseille. On a de la pédagogie au cours de ce week-end de 2 jours. Chaque étudiant signe une charte. Et l'alcool, qui est le sujet principal, hein, est limité. C'est-à-dire qu'on limite aussi, en fonction du nombre d'étudiants et en fonction du nombre de moments. Il y a des moments dans ce week-end où il n'y a pas d'alcool.
Mais ça ne commence pas à 9h du mat.
Non, d'abord, ça ne commence pas à 9h. Et ensuite, il y a des plages. C'est festif. Et c'est sportif.
C'est festif, sportif. Et ça
essentiel.
Rassemble, mais
ce
n'est pas pour...
Alors, ce sur quoi on travaille, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et on est en train de travailler avec le BDE pour septembre 2022. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent sur le thème de l'inclusion, puisque c'est le thème de notre entrée, avec le BDE pour le week-end d'intégration. On en saura plus quand il aura eu lieu.
Vous reviendrez nous en parler, Alexandre voilà. Navaille, directeur général de Kedge Business School. Vous restez avec nous. Vous allez justement accompagner un entrepreneur qui se lance dans l'orientation des jeunes.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour, notre patron du jour. Aujourd'hui, il est exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aussi, puisque c'est vous, Alexandre Navaille. Vous êtes le directeur général de Kedge Business School. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie et un projet qui a été lancé en octobre dernier. Bonjour Stéphane Vincent.
Bonjour Elisabeth.
Vous avez 50 ans, vous êtes le président et le fondateur de Super Future. C'est une start-up qui aide les jeunes dans leur orientation. Vous avez eu une formation dans les ressources humaines.
Exactement.
Vous avez fait votre carrière au sein d'écoles de commerce. À chaque fois, vous avez aidé les jeunes à trouver des premiers emplois. Hein. Tout est parti de vos deux enfants, c'était il y a un an. Et vous avez dit, moi je vais me lancer aussi là-dedans, puisque c'est un peu mon expertise. Le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Super Future et c'est parti, vous avez une minute.
Imaginez une famille comme il en existe partout. Ils ont deux enfants, Héloïse et Gaspard. Héloïse, elle est en seconde, tout se passe bien pour elle, elle a des bonnes notes partout. Par contre, il va falloir qu'elle choisisse. Et là, on va lui demander de choisir ses deux spécialités ou ses trois spécialités pour le bac. Et là, ça devient compliqué. Son petit frère, c'est Gaspard. Gaspard, il est en quatrième, sauf que depuis qu'il est rentré à l'école, il ne fonctionne pas comme les autres, il est un peu différent. Et là, on va l'orienter si jamais rien ne se passe, parce qu'effectivement, il est un peu hors de la norme. Les parents sont un peu perdus, ils subissent l'orientation, ils ne savent pas comment faire. Chez Super Future, c'est là qu'est notre métier, c'est d'accompagner sur l'orientation les parents et les familles. De trois manières. La première chose, c'est qu'on va révéler les points forts de chaque jeune en regardant sa singularité. La deuxième chose, c'est qu'on va projeter ça vers des métiers qui vont mobiliser justement ces points forts. Et la troisième, c'est qu'on va organiser des stages à la fin, une fois qu'on aura trouvé, pour qu'ils regardent dans la vraie vie comment ça se passe et quels sont ces métiers. Alors, quelle est la différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché? C'est qu'on va utiliser un dispositif un peu plus long et plus engageant.
Il est canon ce pitch. Hein. Franchement, vous nous avez transporté, vous avez pris par la main, Stéphane. On a bien compris ce qu'était Super Future. Je me tourne vers Nathalie Carré qui analyse chaque jour les projets d'entreprise. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Super Future?
Déjà, la première force, c'est le temps long. Un an, voire deux. Toutes les solutions qui existent actuellement proposent une heure ou deux avec un coach, un questionnaire, hop, on vous dit le métier pour lequel votre enfant est fait. Alors personnellement, on m'avait dit qu'il fallait que je sois commercial il y a 30 ans, autant vous
c'est
dire. Oui, alors là, franchement, c'était une grosse erreur. J'ai fait d'autres tests pour préparer l'émission. Alors là, j'ai eu le droit à guide touristique, enseignant d'auto-école, éducateur sportif, bref. Ça ne fonctionne pas, il faut du temps. Puis votre méthode repose sur les points forts du jeune et pas sur ses notes, ce qui vous permet d'aider aussi les profils atypiques, comme vous l'avez dit. Puis surtout le faire, grâce au stage, tester des métiers en les pratiquant pour que la décision vienne de l'ado et pas des profs ou des parents. Alors, pas de points améliorés, mais plutôt des idées pour développer l'entreprise et aider plus de jeunes. Il faut donc vous faire connaître. Alors pour la visibilité, vous avez deux axes, la vente en direct aux ados et aux parents ou la prescription. Vous vous adressez à des ados au collège, au lycée, très difficile de faire accepter à la conseillère d'orientation de parler de vos services. Et de toute façon, il y a 6950 collèges et 3750 lycées, donc la prospection peut s'avérer très longue. Donc on y va pour la vente directe auprès des ados et des parents. Pour les ados, TikTok est votre meilleur ami. Il y a des personnes qui racontent leur métier qui sont très suivies par les ados. Ils pourraient accepter.
On avait reçu d'ailleurs à la France Bouge.
Exactement. Mmh. Et donc ils pourraient accepter de recevoir vos jeunes en stage et donc de partager leur expérience avec leurs abonnés et donc de faire connaître votre solution. Pour les parents, il va falloir rassurer encore. Alors quelques idées. Déjà le mot coach, tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi d'ailleurs. Si c'est à la base un vrai métier, cette utilisation abusive lui a retiré toute sa substance. Alors peut-être mentor, même si c'est vrai, le rôle est un peu différent, ou parrain, à voir. Ensuite, le référencement naturel par le web, par le contenu. Investissez sur le décryptage des méthodes d'existence et devenez l'expert de l'orientation. L'idée d'expliquer les principales méthodes en détail, d'indiquer leurs avantages et inconvénients en vous basant sur des données scientifiques, et on a ce qu'il faut. C'est sûr qu'il y a une bonne méthode pour chacun, encore faut-il les comprendre. Donc aidez-nous à les comprendre et naturellement, une partie des internautes choisira la vôtre parce qu'elle conviendra mieux. Enfin, vos offres, vous dites qu'il y a des entretiens individuels. Expliquez comment, qu'est-ce qui s'y passe, le résultat attendu, les méthodes utilisées et cuite si l'ado n'a pas envie de continuer. Si vous remettez un rapport, mettez un extrait en téléchargement et pourquoi pas raconter tout le déroulement d'un accompagnement réalisé. Bref, du concret qui rassure car votre méthode est originale, donc il faut aider les parents à se rendre compte de son fonctionnement. Mais pour vous distinguer dans ce monde très concurrentiel de l'orientation, il va falloir affiner votre positionnement. Vous avez choisi l'orientation professionnelle des adolescents version humaine et durable. Ok, on comprend que ce ne sont pas des tests en ligne, mais durables. On ne comprend pas. Alors, en découvrant votre solution, je me suis dit que Super Futur, c'était une bulle pour prendre son temps, pour aider les jeunes doués mais feignants, les pas doués mais intelligents, les bons partout qui aiment un peu tout mais rien beaucoup, les bons nulle part mais motivés, bref, les ados tout simplement qui, comme tout le monde, veulent juste être heureux aujourd'hui et demain.
Merci Nathalie Carré.
Merci Nathalie Carré.
Hein, votre réponse Stéphane sur tout ce que vous avez dit Nathalie, bon, il y a énormément de choses, elle vous donnera ses petites notes hein, évidemment à la fin de l'émission.
Oui, merci déjà pour ce regard critique bienveillant. Évidemment, vous avez tout à fait raison, il n'est pas toujours évident de passer par les écoles pour en avoir une prescription, alors qu'en fait, nous sommes très complémentaires. Je rappelle aujourd'hui qu'il y a un conseiller d'orientation pour 1230 jeunes en France.
Ah oui, effectivement.
Effectivement.
Voilà.
donc, on se retrouve dans une dynamique qui est un peu complémentaire. Et puis, effectivement, vous avez tout à fait raison derrière, aider les jeunes eux-mêmes. Alors, pourquoi vous parlez de la durabilité? La durabilité, elle est tout simplement parce que en fait, ce qu'on apprend, c'est pas aux jeunes. Enfin, on ne donne pas de poisson aux jeunes. On lui apprend à pêcher. Donc, cette notion de durabilité, elle est qu'il apprend à s'orienter aujourd'hui, demain, mais après-demain, tout au long de sa vie. C'est cette logique de durabilité. Peut-être devrais-je, par contre, la rendre plus explicite sur le site. Ouais. Vous avez tout à fait raison.
Et là, pour l'instant, vous avez accompagné plus d'une vingtaine de jeunes, hein, c'est ça?
Alors, on est même là aujourd'hui, on est en contact avec une cinquantaine de familles.
Une cinquantaine, ça a augmenté depuis.
Ouais. Ça avance bien.
L'intégralité du parcours, hein, ça commence au premier rendez-vous jusqu'à la fin des deux stages. Pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est combien?
Ça coûte 1 200 € pour environ un an, ce qui correspond à 22 € par semaine, ce qui correspond au prix d'un cours de guitare.
C'est bien. Donc, vous en pensez quoi, Alexandre de Navaille?
Écoutez, moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai deux jeunes. Alors, il y en a un, ça y est, il s'est lancé, il est rentré dans les études supérieures dans une école d'ingénieur. C'est très étrange parce que ni moi, ni ma femme n'avons fait une école d'ingénieur, ni ses tantes, ni ses oncles, ni ses grands-parents. Alors c'est très, très étrange, mais on l'a laissé faire. Et je crois beaucoup au laisser-faire aussi du jeune.
Oui, c'est ça.
Et à écouter le jeune et savoir ce qu'il veut et ce qu'il veut faire et comment il veut s'orienter lui-même. Donc pour moi, il y a du pour et du contre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber non plus dans le travers de le coach, le mentor, le parrain, peu importe comment on l'appelle, qui oriente trop. Voilà. Et il faut que le jeune sache vraiment ce qu'il veut faire.
Mais il ne sait pas, souvent il ne sait
pas. Il ne sait pas forcément, mais il ne saura jamais. C'est-à-dire que même quand il rentre dans une école de management, même quand il rentre dans une école d'ingénieur, il ne sait pas forcément ce qu'il fera demain. Et même quand on commence à travailler, on ne sait pas forcément ce qu'on fera demain. On sait ce qu'on va faire dans 3 ans, on sait peut-être ce qu'on va faire dans 6 ans, on ne sait pas ce qu'on fera dans 10 ans et dans 15 ans.
Je rappelle juste que le rôle du coach, c'est justement ce que vous évoquez. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout d'imposer ou de guider sur un choix, c'est d'essayer de faire émerger le fondamental de ce qu'il y a au sein du jeune.
Et c'est souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que le coach, souvent, oriente plus qu'il n'accompagne.
Alors sachez que c'est comme ça qu'on les recrute, de toute manière. Nous, aujourd'hui,
il est là pour
sublimer ce qu'est le jeune. Il n'est pas là pour sublimer ce que lui n'aurait pas forcément pu faire.
Ça s'appelle Super Futur. Merci Stéphane Vincent d'être venu aujourd'hui nous présenter votre projet dans La France Bouge. Et puis chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse Nathalie.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin cette année. Il est encore temps de voter pour votre coup de cœur préféré. Réponse le 29 juin. Vous restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission La France bouge. Aujourd'hui, on s'intéresse à nos études supérieures et nous sommes ravis d'être avec vous. Alexandre de Navaille, vous êtes le directeur général de Kedge Business School. Alors, quand on pense école de commerce, quand on pense école de management, on se dit c'est pas accessible à tous. Hein. C'est un peu pour les élites CSP+. Est-ce que c'est cher d'aller dans votre école?
Alors, au-delà d'être cher de venir dans notre école, c'est surtout cher de former un jeune. Et en fait, former un jeune pour une école de management aujourd'hui, comme pour l'université dans les sciences du management, c'est en gros 11 000-12 000 € par an. Et nous, la seule différence, c'est qu'on a des frais de scolarité quand l'université est financée par vos impôts et l'État. Nos programmes, ils commencent à 8 800 € pour le bachelor, par exemple, 13 500 € pour le programme grande école. En réalité, c'est pas si cher que ça.
C'est pas très cher, Nathalie Carré?
Non, c'est pas très cher. Puis vous avez des systèmes de bourses, il y a l'alternance qui permet d'avoir des financements alternatifs. Ouais. Donc au final, c'est un très bon investissement.
Entre les bourses et l'alternance, on a un étudiant sur deux qui a une source alternative de financement pour ses études.
Donc c'est possible et c'est accessible à tous. Autre particularité au sein de la Kedge Business School, c'est que vous avez une école entrepreneuriale. Et ça, c'est pas dans toutes les écoles,
non,
Nathalie.
Pour le coup, c'est assez exceptionnel.
Oui, c'est une nouveauté. L'école entrepreneuriale a 2 ans. On a formé On est en train de former 45 jeunes, on va recruter d'autres. C'est une école qui, en 3 ans, permet à des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, les quartiers nord de Marseille et des quartiers prioritaires de la ville à Bordeaux, de venir à Ketch pour porter leur projet entrepreneurial en même temps que se former.
Vous êtes une forme d'incubateur ?
C'est dans notre incubateur, c'est dans le cadre de notre incubateur. Les jeunes ont leurs frais de scolarité payés grâce à notre fondation. Ils ont des frais de vie qui sont payés aussi, donc une bourse de vie. Et les jeunes sont là pendant 3 ans pour développer leur projet, l'amener jusqu'au moment où ils pourront le lancer en mode start-up. Et en même temps, ils sont formés. Alors, ils sont très accompagnés, très encadrés. Et ils sont formés à travers nos programmes de formation, au point où après 3 ans, ils peuvent même obtenir leur bachelor en validation des acquis par l'expérience.
Il y a une promotion de combien chaque année
Aujourd'hui, on a 15 étudiants par promotion à Marseille, 15 à Bordeaux. Donc, on est à la deuxième de Marseille et à la première de Bordeaux. On a 45 étudiants en ce moment. On montera peut-être à 20 étudiants par promotion. L'objectif est aussi d'ouvrir à Paris, peut-être en septembre 2022. Si ce n'est pas 22, ce sera septembre 2023.
Et ça, c'est exceptionnel, Nathalie Carré.
Oui, tout payé comme ça, même les frais de vie, c'est assez exceptionnel. Et puis, c'est un vrai tremplin.
C'est un tremplin pour des jeunes qui, aujourd'hui, n'imaginent pas pouvoir un jour rentrer dans une école de management et porter leur projet entrepreneurial.
Une école bien ancrée dans le réel. Hein. Alexandre Denavaille, vous êtes le directeur général de Ketch Business School. C'est déjà la fin de votre émission. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Nathalie Carré, à demain. Vous serez en compagnie exceptionnellement de Carole Ferry pour la Journée mondiale des océans. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelatte.